est un moyen de corriger une perversion actuelle du système du marché par le fait qu'elle est capable d'introduire dans les coûts ce que nous appelons les coûts indirects ou les coûts cachés. C'est-à-dire tous les coûts sociaux, tous les coûts à l'environnement, en tout cas ceux qui peuvent être évalués, peuvent très bien, par le biais de la fiscalité, se retrouver dans les coûts, dans les prix. Et donc là, je crois que l'outil fiscal est un outil que nous ne devons pas négliger dans le combat des mois et des années à venir pour modifier la politique énergétique. Et le fait qu'il y aura de toute manière une harmonisation fiscale au plan européen est une occasion unique pour mener ce combat sur l'introduction donc de ce que nous pourrions appeler une taxe écologique, encore que moi je n'aime pas beaucoup l'expression, je préférerais une expression taxe à la valeur soustraite ou taxe à la valeur détruite, qui est peut-être plus parlante, qui permettrait d'introduire dans les prix les coûts cachés actuellement, qui donc ne seraient plus cachés, deviendraient visibles. Là, évidemment, on se heurte à l'establishment, qui par définition bloque la situation. Le dossier transparence des prix qui était pris en charge par Didier, la transparence des prix du gaz et de l'électricité, a montré à quel point la Commission européenne et les États membres étaient réticents à assurer cette transparence. Transparence qui impliquerait évidemment la transparence des coûts. Bien sûr, c'est un doux euphémisme, enfin je pratique souvent par euphémisme, tout le monde comprend. Troisième élément, au-delà de la fiscalité, le problème des aides et subventions. On a évoqué tout à l'heure le programme permis au plan européen, qui est un programme destiné à stimuler les économies d'énergie, l'utilisation rationnelle de l'énergie et les énergies renouvelables. Le poids financier de ce programme permis n'est pas négligeable puisqu'il s'agit de 700 millions d'écus en 5 ans, mais on sent bien qu'on risque très fort dans les mois à venir un rabotage de ce budget global de 5 ans puisque officiellement il n'est définitif que pour les deux années à venir. Et la première année, c'est-à-dire 1990, on a vu octroyer que 45 millions d'écus sur un total de 700 pour ce programme. Donc manifestement, il y a là aussi un blocage, et un blocage qui est directement lié à l'intérêt des différents monopoles que j'ai déjà évoqués. Quatrième point sur lequel on peut agir, c'est la recherche-développement. Alors, la recherche-développement, il y a le grand programme cadre européen et les programmes nationaux qui sont souvent joints à ce programme et liés à ce programme européen. Là aussi, le poids important n'est pas mis en matière d'énergie sur les énergies renouvelables et sur l'utilisation rationnelle de l'énergie. Le grand fantasme de la fusion nucléaire reste dominant. La fusion nucléaire pompe l'essentiel des budgets en matière de recherche énergétique, et il faut quand même qu'on s'en rende compte. Or, les plus chauds partisans de la fusion nucléaire reconnaissent qu'il faudra encore plusieurs décennies avant de pouvoir, pour autant que ça marche, avant de pouvoir utiliser concrètement ce mécanisme de production d'énergie, sans qu'on ait d'ailleurs évalué jusqu'à présent les tombées négatives que ça peut avoir, puisque là aussi, on va vers un système hyper centralisé, avec des risques de l'eau qui sont loin d'être négligeables, et avec une pollution radioactive à la clé. Donc voilà les quatre points, les quatre axes d'intervention et de mécanisme que nous pouvons utiliser, sachant bien que, pour le moment, tout ce qui se met en place au plan européen va dans l'autre sens. Donc nous devons être conscients que depuis un an, que nous sommes présents au Parlement européen, et déjà avant, mais il y a eu une accélération depuis quelques mois, tous les mécanismes qui se mettent en place, que ce soit ce qui touche à la transparence des prix, que ce soit le transit du gaz et de l'électricité, vont en sens inverse de ce que nous voulons, et vont en sens inverse du type de politique que nous voulons développer. Donc je crois que nous devons être conscients de cela, et que nous devons peut-être renforcer encore notre volonté d'agir à ce niveau-là et nos actions politiques dans les prochains mois. Je ne crois pas que je vais en dire plus puisque Pierre est au bout d'impatience et je ne voudrais pas le faire attendre plus longtemps.
Positive, forward-looking one. that the conclusions of Paul's talk about what is happening at the moment on the European level, maybe we haven't quite left Sars on this morning. Our next speaker is Pierre Hardin, who comes from an institute which evaluates energy strategies for Europe. As you can see, he has a number of transparencies to show us on the overhead projector. It may well be that these will be more difficult for people at the back to see, so please move rather than squint and have difficulties. If you're ready, I'd like to hand over to Pierre. Could somebody dim the lights for us, please? Could dim the lights and illuminate our brains.
Bien, je vous remercie. Je vais vous présenter des transparents pour que mon propos soit le plus enrichissant possible, c'est-à-dire que vous appreniez des choses avec les oreilles et avec les yeux. J'ai traité comme sujet une comparaison est-ouest à l'intérieur de l'Europe au niveau de la situation énergétique, voir quelles sont les disparités, les problèmes qui s'opposent bien évidemment actuellement à l'Est, les problèmes qui s'opposent chez nous à l'Ouest, et voir des deux côtés comment la situation pourrait évoluer. Alors je vais commenter les graphiques, ne faites pas des efforts de lecture excessifs, c'est pas très grave, je vais faire des commentaires en même temps. Ce que vous entendez d'abord en ce qui concerne les pays de l'Est, c'est ça. C'est-à-dire des pays qui sont en grande partie dépendants du lignite et du charbon pour leur approvisionnement énergétique. Vous avez là le cas, le plus excessif, qui est celui de la RDA, où vous voyez un approvisionnement par le lignite qui fait 82% de l'approvisionnement primaire du pays, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait considérable. Ce cas-là n'est quand même pas un cas général. Vous avez ici l'URSS, et vous voyez que l'URSS est quand même un grand pays producteur d'hydrocarbures et que pour l'URSS, la part du charbon et du lignite est beaucoup plus faible. Disons que la Roumanie, par exemple, serait dans un cas équivalent. Pour ce qui concerne la CE, parce qu'on va faire un jeu de comparaison, vous voyez qu'au niveau de la CE, la grande énergie reste pour l'instant le pétrole et d'une manière générale les hydrocarbures, la part du charbon ayant énormément été réduite. Voilà une première différence entre l'Est et l'Ouest, c'est la plus connue. L'est beaucoup moins la différence en ce qui concerne l'utilisation qui est faite de l'énergie. Vous avez ici la consommation d'énergie de l'URSS en 1987, exprimée en millions de tonnes équivalent pétrole, et vous voyez une répartition par secteur d'activité. La première pile, la plus haute, c'est l'industrie. L'industrie de l'URSS consomme à elle seule la moitié de l'énergie du pays, et c'est, disons, une tendance qu'on va retrouver dans l'ensemble des pays de l'Est. Vous voyez que la part des transports est assez réduite et surtout la part du résidentiel et du tertiaire. C'est-à-dire ici, vous avez l'ensemble de l'habitat, l'ensemble du secteur commercial du tertiaire et puis tous les bâtiments publics. Vous avez là une consommation extrêmement faible. C'est une situation qui est très générale dans l'ensemble des pays de l'Est. Vous voyez une part de l'électricité ici en bleu qui est très faible, avec une part très importante pour le charbon et bien évidemment le lignite. La situation dans l'Europe de l'Ouest est tout à fait différente. Vous voyez que la part de l'industrie ne cesse de se réduire, à tel point qu'au niveau de l'Europe de l'Ouest, la part des transports équivaut presque maintenant à la consommation de l'industrie et que vous avez un secteur qui lui est largement dominant, c'est l'habitat et le tertiaire. C'est-à-dire que maintenant, c'est le secteur qui est en croissance permanente avec le secteur des transports. L'habitat tertiaire représente maintenant, disons, 40% de la consommation énergétique des pays européens et que les changements qui vont exister à l'Est, vont être très probablement des changements de mode de consommation d'énergie et de secteur d'énergie. On voit bien que les changements technologiques qui vont être réalisés dans l'industrie vont aboutir à une réduction extrêmement forte de la consommation de pétrole, de charbon, de combustibles fossiles à l'intérieur du secteur industriel, alors que très probablement le secteur domestique, notamment pour les applications de l'électricité dans l'électroménager, le secteur domestique va connaître, lui, une croissance extrêmement forte. C'est la situation dans laquelle étaient les pays de l'Est, c'est-à-dire une dominante de l'industrie, est une situation qu'on a connue dans les pays européens, et c'est européen de l'Ouest, et c'est l'ensemble des pays de l'OCDE d'une manière générale, c'est une évolution qui a été cassée avec le premier choc pétrolier en 1973. Voici l'évolution à l'intérieur de la France. Vous voyez, répartie par secteur industriel, la consommation de pétrole dans l'industrie française depuis 1973, elle a été divisée par 2,5. C'est tout à fait considérable. Cette évolution est la même dans tous les pays d'Europe de l'Ouest, de la CE. Et ce n'est pas une tendance qui s'est accompagnée d'une augmentation très forte d'autres combustibles, par exemple le charbon, le gaz ou l'électricité. Non, c'est un effort énorme d'économie d'énergie, de changement des procédés, qui a abouti à cette réduction de la consommation d'énergie dans l'industrie. Pour continuer le parallèle Est-Ouest, on va donc avoir très probablement une demande très forte des ménages, et pour le moins légitime, d'amélioration de la consommation dans l'habitat tertiaire, bien que dans le secteur de l'habitat tertiaire, dans les pays de l'Est, il y a un gaspillage relativement important au niveau de la chaleur, c'est-à-dire au niveau du chauffage, dans un certain nombre de régions, dans un certain nombre de pays, dans un certain nombre de milieux sociaux. Une autre évolution va concerner assurément les transports. On voit déjà une demande très forte de déplacement par la voiture individuelle. Et à ce titre-là, pour vous montrer un problème que l'on a à l'Ouest, je vous montre ce graphique qui représente la surface occupée par la voiture dans nos villes. Dans une ville de la région parisienne, ici en France, le logement moyen d'une famille par personne représente 10 mètres carrés au sol. Eh bien, sachez que la voiture représente 4 fois plus de surface, 3 fois plus de surface, ou presque 4, presque 4 fois plus de surface que l'habitat. C'est-à-dire que cette voiture, elle est garée sur un trottoir, et les trottoirs, on ne les empile pas comme les logements, et cette voiture, elle a une surface de circulation, et vous voyez là l'énorme phénomène de déformation de la ville que la circulation automobile a eu dans nos pays, et c'est un problème qu'on ne sait pas résoudre et sur lequel il va falloir énormément lutter, et c'est une des difficultés, je crois, qui va apparaître très fort à l'Est dans les années qui viennent. Alors, le premier constat que l'on fait, et j'entends souvent des gens des pays de l'Est dire « vous êtes contre le nucléaire, regardez notre problème de pollution atmosphérique ». Alors, on va faire cette analyse. Vous avez ici, sur ce graphique, les émissions de SO2, d'oxyde de soufre, et de NOx, d'oxyde d'azote, répartis par pays. Et vous voyez qu'à l'intérieur de quelques pays européens, vous avez la RDA, la Tchécoslovaquie, la Pologne, qui sont des pays extrêmement fortement émetteurs de SO2 et de NOx, alors que les pays, disons, de l'Ouest européen sont, eux, beaucoup plus sobres en la matière. La première conclusion est donc de dire il faut arrêter de consommer du charbon et du lignite pour la production d'électricité. Je serai obligé de vous dire que là, il y a une erreur de raisonnement. Je vais vous montrer un graphique qui est une comparaison entre la France et l'Allemagne. C'est-à-dire que la France a les trois quarts de son électricité d'origine nucléaire et l'Allemagne a une contribution du nucléaire qui est, elle, d'un tiers. C'est-à-dire que l'Allemagne produit beaucoup d'électricité avec du charbon et donc normalement l'Allemagne de l'Ouest devrait émettre beaucoup moins de SO2 que la France. Et bien voici l'évolution depuis 1982. L'Allemagne de l'Ouest a engagé un énorme programme de désulfuration de ses fumées. Et ce programme de désulfuration des fumées de l'Allemagne de l'Ouest lui permet aujourd'hui d'émettre moins de SO2 que la France. Et donc vous avez là la démonstration que l'on peut faire du charbon propre et qu'il y a là une voie qu'il ne faut pas a priori fermer. Ça va représenter un effort d'investissement assurément considérable dans les pays de l'Europe de l'Est, mais ce n'est pas un investissement du même ordre que le serait un investissement nucléaire, qui serait un investissement encore plus considérable que de supprimer l'ensemble de ces centrales charbon. Et ces centrales charbon, les pays de l'Est vont devoir les côtoyer, encore pour certaines, quelques décennies, parce que le rythme de montée en puissance d'un programme nucléaire ne pourra pas, en tout état de cause, réduire les émissions de SO2 de l'Europe de l'Est avant l'horizon 2000. Donc il y a 10 ans, disons qu'ils sont déjà occupés. L'installation de désulfuration est-elle une solution à très court terme? Même chose en ce qui concerne le SO2, qui est, lui, le générateur, la principale cause de l'effet de serre, le CO2, oui. Principale cause de l'effet de serre, vous avez une émission de CO2, donc d'oxyde de carbone, par habitant dans les pays de l'Est qui tourne autour de 13, avec une pointe de 20 tonnes par habitant pour l'Europe de l'Est. Je vous donne les chiffres européens en comparaison pour l'Ouest. C'est environ 13 tonnes aussi pour l'Allemagne de l'Ouest et c'est 6 pour la France. Vous avez dans les pays de l'Ouest des pays qui ont des émissions de CO2 extrêmement faibles. Ça tient notamment à un système de transport plus économe, ça tient à une production d'électricité faisant moins appel au charbon et une consommation des ménages plus sage. Alors maintenant, quelques éléments sur les programmes nucléaires. Voici les mises en construction de centrales nucléaires dans l'Europe de l'Ouest. Vous avez en noir, j'ai choisi la couleur, le nucléaire français. Vous avez donc une masse considérable de centrales qui ont été commandées juste après 1973, centrales qui ont été mises en service pour la plupart au début des années 80, et vous voyez qu'à partir de 1980, ça chute vertigineusement. C'est pas Tchernobyl, je vous rassure tout de suite. Si vous aviez quelques culpabilités d'arrêter le nucléaire européen, ce sont les Américains qui l'ont arrêté avec l'accident de Plumel Island de 1979. Depuis 1979, la France a, elle toute seule, a commandé 25 réacteurs nucléaires. Les autres pays de la CE en ont commandé qu'un seul. Ce sont les Britanniques qui ont commandé le réacteur de Sizewell B. Les autres pays de la CE n'ont commandé aucun réacteur depuis 1978. Donc vous avez un nucléaire de l'Europe de l'Ouest qui est très malade. Il est d'autant plus malade que le nucléaire français est terminé. On ne sait plus quoi faire des réacteurs nucléaires, on n'a plus besoin de leur électricité, et donc le nucléaire français n'a plus de développement devant lui. Alors, il va se passer très probablement, enfin il se passe déjà, quelque chose qu'on a vécu chez nous en 1973-1974. Les Américains, essentiellement Wall Street, les banquiers, avaient une crise de confiance sur le nucléaire. Et de fait, les Américains n'ont plus commandé de réacteurs nucléaires depuis 1974. Et les deux compagnies, General Electric et Westinghouse, avaient de très gros problèmes financiers. Et ces deux compagnies ont exporté leurs problèmes financiers dans l'Europe de l'Ouest et ont fait le décollage du nucléaire que vous voyez ici dans les pays de l'Ouest à partir de 1973, sous la pression du choc pétrolier. Alors, maintenant, on est en 1990, Que veulent faire nos grandes compagnies de production de centrales nucléaires de l'Europe de l'Ouest? Eh bien, ils veulent vendre les centrales qui ne vendent plus chez nous, ils veulent les vendre à l'Europe de l'Est. C'est-à-dire que chacun trouve un nouveau marché pour essayer d'absorber l'échec de sa politique. Alors, vous avez ici la mise en route de ces deux réacteurs nucléaires dans l'Europe de l'Est, avec bien évidemment deux réacteurs sur trois qui sont soviétiques. Et vous avez une commande, un rythme de commande de réacteurs nucléaires qui se prolonge là, bien au-delà de l'accident de Three Island, qui n'a donc pas eu d'effet de l'autre côté de l'Europe. Mais bien évidemment, il y a un effet de Tchernobyl qui est actuellement encore extrêmement difficile de cerner, parce que beaucoup de commandes de réacteurs sont actuellement en attente. Disons qu'il n'y a pas de renoncement de la part de la totalité des pays ou sur la totalité des sites pressentis. On ne sait pas très bien comment les choses vont se passer. C'est au fur et à mesure des années qu'on y verra bien. Alors, si on veut regarder la nécessité ou non de construire ces réacteurs, sachez que l'argument qui a été utilisé dans nos pays au début des années 70, c'était de dire nos pays vont avoir besoin de plus en plus d'énergie. La croissance économique va générer une consommation sans cesse plus importante d'énergie, et il nous faut donc un moyen quasi illimité, le nucléaire, pour assurer cet approvisionnement énergétique. Il est intéressant de regarder avec le jugement de l'histoire comment la production d'électricité a évolué et comment la consommation a évolué. La France produit 10 fois plus d'électricité aujourd'hui qu'en 1958, pour donner un ordre d'idée. Vous avez ici, sur les 15 dernières années, l'évolution de la production d'électricité. Et vous pouvez voir, avec probablement beaucoup d'étonnement, que la consommation d'électricité dans le secteur industriel reste étonnamment stable. Le développement industriel ne consomme pas de grandes quantités d'électricité. Pourquoi ? Parce que on économise l'électricité dans l'industrie lourde, on utilise des procédés plus performants, et il y a donc des quantités considérables d'électricité qui viennent contrebalancer en partie les besoins nouveaux. Et tout ce qu'on appelle les nouvelles technologies, l'informatique ou un certain nombre de procédés industriels, ont pour point commun d'être extrêmement sobres en électricité. Et vous pouvez voir sur ce graphique que la consommation d'électricité en Europe de l'Ouest a été essentiellement destinée au résidentiel, à l'habitat et au secteur tertiaire. La tendance est à peu près uniforme dans l'ensemble des pays européens. Vous voyez ici en rouge que la croissance de la consommation d'électricité dans l'habitat en France est particulièrement forte. Et par contre, nos amis britanniques ont une consommation qui était élevée mais qui plafonne au niveau de l'habitat. Le cas français, c'est une exception bien connue. C'est cette imbécilité de chauffage électrique qui est développée dans notre pays et quasiment heureusement nulle part ailleurs. Et le chauffage électrique, il faut que vous le sachiez, émet plus de CO2 qu'un chauffage au gaz, à peu près le double. Pourquoi ? Parce qu'une partie du chauffage électrique est faite avec des centrales charbon. Donc c'est là la preuve d'un détour absolument aberrant. Alors, pour essayer de tirer des perspectives sur l'avenir, voici le graphique qui est peut-être le plus important de tous ceux que je vais vous présenter. Ce graphique exprime l'évolution du produit intérieur brut, c'est-à-dire la croissance économique, en France depuis 1973. Auparavant, je vous l'ai dit, chaque fois qu'on envisageait d'avoir un point de croissance économique, on pensait qu'il était fatal d'avoir un point de croissance de la consommation énergétique. En 1973, avec le choc pétrolier, s'est amorcé un mouvement en plusieurs phases. Vous avez commencé à éteindre vos lampes, à faire des changements de comportement, Et vous avez, juste après le choc pétrolier de 73, un décrochement de la consommation énergétique par rapport la croissance économique. Et puis, bien évidemment, les mauvaises habitudes ont été reprises aussitôt, et vous avez donc à partir de 75 jusqu'à 79, une croissance de la consommation énergétique qui resuit assez parallèlement la croissance économique. Et puis, 1979, piqûre de rappel, c'est la guerre Iran-Irak, c'est le deuxième choc pétrolier. Deuxième choc pétrolier qui nous fait comprendre enfin qu'on avait changé de monde, qu'on rentrait dans un monde avec une finitude des ressources, avec l'énergie qui devenait un enjeu géopolitique majeur, et a commencé à partir de 1979 les grands programmes d'économie d'énergie. Pourquoi les grands programmes d'économie d'énergie ont-ils commencé si tard? C'est qu'entre 1973 et 1979, il a fallu inventer des métiers. Il a fallu former de nouveaux ingénieurs sur de nouvelles bases de compréhension des problèmes énergétiques. Et c'est quand tout cet effort a été fait que l'ensemble des programmes d'économie d'énergie ont pu prendre leur ampleur. Et vous avez ces programmes qui ont permis, malgré une croissance économique lente mais quand même réelle, ont permis une réduction de la consommation énergétique. Et puis, depuis 1985, vous savez, c'est le contre-choc pétrolier, les pays de l'OCDE ont tellement réduit leur consommation de pétrole qu'il y a eu une détente sur les marchés pétroliers. C'est-à-dire que là, c'est une victoire qui a un peu un effet pervers. Et vous avez, depuis 1985, la consommation qui a un petit peu tendance à remonter. Mais globalement, sur la période, les Français sont 25% plus riches qu'en 1973. Alors, leur niveau de vie a augmenté de 25% en moyenne, alors que la consommation énergétique, elle, n'a augmenté que de 2%. C'est-à-dire que nous avons inventé en 15 ans ce qu'aucun des écologistes ici présents ne croyait possible à l'époque, une société qui est une société de mieux-être sans croissance de la consommation énergétique. C'est-à-dire que quand on en rêvait il y a 15 ans, on disait que ça serait quelque chose que l'on aura pour l'an 2000, qu'on aura au terme d'une très grande évolution. Alors, cet élément-là peut être exprimé d'une autre façon, c'est-à-dire par une courbe qui est une courbe d'évolution dans le temps, un rapport, c'est-à-dire qu'on regarde combien il faut d'énergie pour produire à travers l'histoire la même quantité de biens. Vous voyez ici, c'est exprimé en dollars américains des années 80 pour avoir une monnaie constante, et vous avez l'évolution des différents pays. Vous pouvez voir que la France, de ce point de vue-là, malgré tous ses défauts nucléaires en particulier, est l'un des pays les plus sobres. Et vous pouvez voir que celui qui a été le meilleur de la classe, qui a fait le plus d'efforts d'économie d'énergie, c'est le Danemark. Et c'est probablement dans les politiques européennes, la politique danoise qui est, du point de vue énergétique, de loin la meilleure. Je tiens à vous dire que, par exemple, le Danemark vient d'adopter en février dernier un plan énergétique pour l'horizon 2010, dans lequel, officiellement, le gouvernement danois se donne comme objectif une réduction de 15% de la consommation énergétique nationale. Alors vous avez donc là cette évolution d'une manière générale, et vous voyez qu'il faut environ 0,35 tonnes équivalent pétrole pour 1000 dollars US produits. Et selon dans les mêmes conditions, vous avez ici les intensités énergétiques telles qu'on peut les calculer sur les pays de l'Est. Et vous pouvez voir qu'il faut à peu près deux fois plus d'énergie à l'Est pour la même production de biens qu'à l'Ouest. Et donc, ce que je voudrais vous dire avec force, en tout cas pour nos amis de l'Est, c'est que ne tombez pas dans le piège de croire que le développement économique qui va se passer chez vous va aboutir à une augmentation de votre consommation énergétique. Ce que vous allez découvrir, c'est d'abord la réduction de vos consommations industrielles. Certains secteurs vont consommer plus, mais vous allez avoir un phénomène de vase communicant qui va probablement être extrêmement complexe à gérer au niveau des édifices énergétiques, mais surtout ne croyez pas, ne vous laissez pas enfermer par les sirènes occidentales, notamment EDF, qui vont vouloir vous vendre leur nucléaire sur une logique de rattrapage telle qu'on l'applique au tiers-monde. Vous n'avez pas de rattrapage quantitatif de la consommation d'énergie à faire, vous avez un changement qualitatif à faire et une amélioration des procédés d'utilisation. Mais en quantité, vous avez déjà largement la quantité d'énergie nécessaire à faire tourner une économie. Alors, cette présentation peut être reprise selon une plus loin dans le temps. Vous voyez, là, je remonte à 1860. Et là, je vous invite à une nouvelle définition du progrès technique. En tout cas, une définition du progrès technique qui nous satisfasse. Le progrès technique, c'est bien évidemment remplacer du travail humain par du travail machine. Mais c'est aussi que cette quantité de travail machine se fasse avec une consommation sans cesse plus faible de matières premières et d'énergie. Et vous avez ici toujours le même ratio pour 1000 dollars US produits en tonnes équivalent pétrole, combien il faut de tonnes équivalent pétrole pour cette production de biens. Vous voyez que nos amis britanniques qui ont inventé qui ont fait la révolution industrielle vont passer par un cap vers 1880. Les autres pays industriels vont avoir le même cap vers 1920. Et depuis 1920, tout le monde est engagé dans une voie qui est de produire les biens avec de moins en moins d'énergie. Et donc vous avez une nouvelle définition du progrès technique. Le progrès technique, c'est produire des biens avec moins d'énergie, moins de matières premières et moins de travail humain. Et ce n'est pas contradictoire. La preuve, c'est ce que l'on avait dit. Regardez, c'est intéressant dans ce graphique, le cas du Japon. Le Japon a directement profité des efforts industriels et des efforts techniques des autres, sans passer par une phase de grande consommation qu'ont connu les pays qui ont fait le cheminement de la révolution industrielle. Alors, de ce point de vue-là, quelles sont les pistes d'avenir? D'abord, pour les pays qui sont engagés dans le nucléaire, et là je prends bien évidemment le cas le plus difficile, à savoir le cas français. La France produit son électricité, vous le voyez au bas du graphique, avec de l'hydraulique, avec des centrales thermiques au charbon, bien sûr, il y en a, et avec du nucléaire. Le graphique est exprimé ici en puissance, hein, c'est-à-dire les moyens qu'il faut mobiliser au moment le plus froid de l'année. Vous avez une courbe rouge au milieu qui est les besoins maximum l'hiver qu'il faut en France. Et vous voyez que le record...
Alors je dois vous avouer... J'avoue que si j'avais su que j'aurais rencontré un si grand nombre de journalistes, je serais resté à l'hôtel, je ne vous cache pas. Seulement maintenant, je suis là. Non. Et je devrais commencer par vous dire que ma délégation... Ma délégation est venue ici pour pouvoir définir, pour vous dire quel est notre projet pour l'Afrique du Sud, pour la paix et pour la prospérité. Nous sommes venus rendre visite à une partie du monde où tout est basé sur le principe démocratique. C'est-à-dire, un homme, un vote, une voix. Une partie du monde où les droits de chaque individu sont garantis. Dans une charte des droits de l'homme, quelle que soit la forme de cette charte des droits de l'homme, c'est une région du monde, là où nous sommes aujourd'hui, où il n'y a pas de garantie particulière pour tel ou tel groupe au sein de la population. La seule garantie, c'est la garantie dont jouit chaque individu, chaque citoyen. Car chacun sera protégé, aura comme garantie le fait qu'il pourra jouir de ses droits de l'homme fondamentaux. Et c'est ce principe qui, apparemment, vous l'avez trouvé bon pour cette partie du monde où vous résidez. Et donc, je pense que vous serez d'accord pour considérer que ça devrait être bon pour nous également. Donc, vous comprendrez pourquoi nous avons considéré que nous ne devions pas accepter cette idée de la protection des droits de tel ou tel groupe de la population, car ça, c'est une partie fondamentale du plan quinquennal du Parti national qui est au pouvoir actuellement en Afrique du Sud. Et nous sommes venus vous dire que ce qui est bon pour vous est également bon pour nous. En deuxième lieu, je me trouve ici en France pour rencontrer les dirigeants de ce pays, également pour voir la possibilité de dire merci au peuple de France. Merci pour le soutien sans relâche, le soutien très ferme qui a été apporté au peuple de l'Afrique du Sud au cours de ces luttes contre le racisme depuis mon arrivée ici hier. J'ai rencontré le président de la République, le président François Mitterrand, et son épouse. J'ai rencontré M. Chirac. J'ai également rencontré M. Mauroy, le premier secrétaire du Parti socialiste français. J'ai rencontré Georges Marchais, le secrétaire général du Parti communiste français. J'ai également rencontré un groupe d'hommes d'affaires éminents à Paris, et à chaque fois, j'ai pu informer mes interlocuteurs du dernier état de la situation, de l'évolution de la situation politique en Afrique du Sud. Et aux industriels, j'ai également pu expliquer quelle était notre façon de voir l'organisation économique de cette nouvelle Afrique du Sud que nous cherchons à bâtir. Ce qui était au premier plan de tous mes entretiens était la question des sanctions. J'ai demandé à tous ces dirigeants de maintenir les sanctions contre l'Afrique du Sud jusqu'à ce que des changements profonds et irréversibles se produisent dans ce pays. J'ai fait remarquer que malgré les réformes qui jusqu'à présent ont été introduites par M. de Klerk, et malgré ce qu'il a déclaré, les déclarations qu'il a faites concernant les nouvelles politiques qu'il souhaite introduire, que malgré tout cela, l'apartheid en tant que tel est toujours là, toujours en place. Et les sanctions, justement, ont été introduites pour démanteler l'apartheid. Et nous en sommes encore loin. Et que ce que l'on demande essentiellement en Afrique du Sud, c'est que à chacun ait le droit de vote, à l'homme, une voix. Et tant que cette demande-là n'est pas satisfaite, il serait prématuré que quiconque au sein de la communauté internationale songe à la possibilité de réexaminer la question des, des sanctions. Voilà le message que j'ai voulu apporter. Et je crois que, on peut dire pratiquement tous les dirigeants à qui j'ai pu l'entretien de ces questions, non seulement comprend le fondement, le bien fondé de notre position en la matière, mais des engagements ont été pris à notre égard. Avec une exception près, on a pris l'engagement devant nous, très clairement. Chacun a dit que son groupe soutenait pleinement notre position en matière de sanctions. Merci. Alors, je crois qu'il faudrait que quelqu'un...
Isabel Ma from French TV Channel 1. Mr. Mandela, can you tell us what is your reaction to the lifting of the state of emergency?
Quelle est votre réaction au fait que l'état d'urgence a été levé? Alors, nous avons condamné l'état d'urgence dès le début. Et nous avons demandé au gouvernement précisément de prendre cette mesure. Nous l'avons fait tout au long de l'existence même de l'état d'urgence. En outre, nous en avons fait une de nos principales priorités au cours de la rencontre qui a eu lieu entre la délégation de l'ANC et la délégation du gouvernement au début du mois de mai. Et nous sommes arrivés à ce moment-là, d'accord général, selon lequel tous les obstacles à la négociation, y compris l'état d'urgence, devraient immédiatement être supprimés. Alors le fait de lever l'état d'urgence est en conformité avec ce que nous avons demandé, avec notre position. Et nous félicitons de cela. Nous le félicitons pas tellement en tant que victoire de l'ANC, c'est pas tellement cela. Ce n'est pas dans cet esprit que nous approchons, nous abordons les problèmes actuellement dans notre pays. Non, nous sommes entrés dans ces négociations non pas dans le sens qu'il fallait qu'il y ait un gagnant et un perdant. Non, notre position était que c'est le peuple de l'Afrique du Sud qui devrait sortir gagnant de cette affaire. Et dans le cas présent, le fait de lever l'état d'urgence représente une véritable victoire pour le peuple d'Afrique du Sud, donc je m'en félicite.
Suzanne Kalalobé, la voix du Cameroun en centrale de l'UPC.
Monsieur Nelson Mandela, vous envisagez de partir en Afrique, notamment en Éthiopie. Est-ce que si vous ne vous rendez pas au Zaïre, au Gabon, au Cameroun ou dans d'autres pays, est-ce que c'est parce que vous estimez que dans ces
pays...
Et que pensez-vous du multipartisme pour l'Afrique?
Il n'y a aucun pays dont on peut dire que j'ai décidé de ne pas y aller. J'ai reçu des invitations de pratiquement tous les gouvernements dans le monde entier d'ailleurs. Et nous sommes en train d'essayer d'élaborer un programme pour répondre à toutes ces invitations. Actuellement, je rends visite à 7 pays d'Europe, à tous les pays d'Europe. Nous avons un programme qui prévoit de rendre visite aux autres pays d'Europe, mais pas cette fois-ci, pas au cours de la présente tournée. À ceci vaut également pour l'Afrique. Je m'en rends dans certains pays parce que cela convient d'en visiter certains pays maintenant, et puis il y en a d'autres auxquels nous rendrons visite au moment opportun pour nous et pour eux. Il faut se rappeler que le fait d'accepter ces invitations est suivi par des négociations en ce qui concerne le choix d'une bonne date. Et dans certains pays, eh bien, ça ne leur convenait pas que je vienne maintenant. Et ils ont indiqué d'autres dates. Et c'est ainsi que... C'est comme ça que ces visites s'organisent. Je n'ai absolument pas l'intention de ne pas accepter une invitation de la part de certains pays. Alors, s'agissant de la question du système du parti unique ou du multipartisme, eh bien, ça, c'est une affaire qui ne peut pas être décidée sur la base de principes. C'est une affaire qui doit être tranchée, qui doit être laissée aux populations d'un pays donné pour décider eux-mêmes en fonction de leurs propres circonstances.
Would you accept
que vous rendez visite sont peut-être tentés de lui donner la récompense, c'est-à-dire de lever les sanctions dans une certaine mesure. Réponse. Cela serait une grave erreur et ce serait certainement considéré par le peuple d'Afrique du Sud comme un coup de poignard dans le dos de la lutte anti-apartheid dans le pays. Il n'y a aucune raison de récompenser qui que ce soit. Les gens doivent être récompensés dans la mesure où ils auront fait quelque chose de tout à fait fondamental qui aboutira à une solution de la crise politique du pays. De Klerk n'a rien fait de cet ordre. Il a éliminé un des obstacles à la négociation et c'est tout. Les autres obstacles à la négociation, bien qu'un accord général soit intervenu pour dire qu'il devrait disparaître, eh bien, ces obstacles sont toujours là. Et je ne vois pas quelle serait la logique de récompenser qui que ce soit à un moment tellement précoce. S'agissant du processus des conversations précédant les négociations. Et il faut également garder à l'esprit le fait que les gens qui sont responsables des réactions du gouvernement à son égard, eh bien, ce sont les masses, la population d'Afrique du Sud, et aussi, bien sûr, la communauté internationale. Donc, s'il y a quelqu'un qui mérite une récompense, ce sont les masses, c'est la population sud-africaine. Il faut faire très attention. Lorsque l'on songe aux solutions d'Afrique du Sud, il faut faire très attention et garder à l'esprit de quel groupe de population on pense et quel groupe on pense. Alors, la question est-ce qu'il ne faudrait pas récompenser M. de Klerk, cette question est malheureusement de certains groupes qui ont certaines affinités avec M. de Klerk. J'espère que le fait qu'il est mal ne pousse pas les pays blancs du continent européen à penser que eux devraient mettre leur poids de son côté de la balance. Il faut qu'ils mettent leur poids du côté de la balance qui correspond au peuple d'Afrique du Sud, qu'il soit noir ou blanc. Ce qui est en train de se produire, c'est que les noirs et les blancs sont en train de négocier. Et ceux qui veulent aider à ce que l'on trouve une solution ne doivent pas avoir tendance à aider tel ou tel parti à ce débat. S'ils veulent vraiment faciliter le processus de négociation,
Il faut qu'il
est toujours le problème de façon à donner le problème, à donner l'impression, à bien montrer qu'ils ont à l'esprit le bien-être de toute la population sud-africaine. À mon avis, M. De Klerk ne mérite pas de récompense pour les mesures qui ont été prises jusqu'à présent. Il y a les homelands qui, sur le plan constitutionnel, sont indépendants. Dans ce sens, ils ont leurs propres organes législatifs, leurs propres organes judiciaires et leurs propres exécutifs. Ils sont capables aussi de s'occuper de leurs propres affaires étrangères. Deux de ces homelands-là renversé ce qui était considéré comme vraiment réactionnaire et se sont alignés sur le mouvement de libération. Et nous y avons été invités. Nous avons pris la parole dans un meeting et nous les considérons comme faisant partie intégrante du mouvement de libération maintenant. Et puis, il y a un troisième qui a aussi renversé ce qui était considéré comme un gouvernement réactionnaire. Mais là, il y a encore des problèmes. Bien que ce homme-là a demandé d'avoir des discussions avec nous, néanmoins, il y a des problèmes qui se posent parce qu'un nouveau dirigeant est lui-même a produit de la police africaine, de sécurité policière de l'Afrique du Sud. Donc il y a des problèmes. Ça m'a dit lui-même. Il a quand même déclaré son intention. Il a dit qu'il voulait travailler avec le mouvement de libération. Il n'y a qu'un seul des soi-disant homelands indépendants qui semble s'aligner encore sur Pretoria. Tous les autres ont ou bien rejoint et ont été acceptés par le mouvement de libération, et puis le troisième, comme je vous l'ai dit, est encore en cours de discussion. S'agissant homelands non autonomes, il y en a six. Cinq d'entre eux sont également en train de travailler très étroitement avec la ANC. Et donc, la question de savoir ce qui va se passer pour les homelands, eh bien, ce n'est plus une question qui peut relever d'une déclaration unilatérale du mouvement de libération. C'est un mouvement qui maintenant qui doit être négocié avec les dirigeants des Homelands. En raison du fait qu'ils travaillent avec le mouvement de libération.
Vous-même, vos rejets de radioactivité dans l'environnement. Donc vous effectuez des mesures. Peut-on consulter les mesures que vous faites? Je ne me sortais pas le coup du 36-14 Magnus parce qu'il n'y a rien. Enfin, on est passé de pratiquement rien à deux fois rien comme information.
Non, mais oui, effectivement, si vous dites de toute façon 36-14 Magnus, 7-15, ça ne donne rien. Je ne sais pas, moi, quand je vois ce qu'on donne, c'est tout de même extrêmement important et ça fait partie de ces questions techniques sur lesquelles on pourra vous répondre si vous êtes d'accord pour qu'on entame un processus de dialogue réel avec des questions précises et avec en face de vous des experts qui, sur ce sujet et sur d'autres, seront à même de vous répondre. Là, effectivement, on s'amuse, mais on ne va pas au fond, je vous l'ai dit, M. Angers, déjà.
Ces mesures sont publiques, elles sont publiées, les mesures qui sont faites dans l'environnement sont tout à fait publiques. Oh, mais si vous les demandez, il n'y a aucun problème. Dans certains coins, elles sont même publiées dans la presse locale.
Ce qui est publié par personnellement, je suis le site de nos genres, le site de nos genres publie une fois par mois ses déclarations de rejet et quelques analyses. Oui. C'est quasiment rien, c'est même pas 1% des mesures qui sont faites. Alors, si on veut pas, c'est le 1% que nous donne, c'est l'intégralité des chiffres et des mesures.
C'est le problème des moyennes.
Bien sûr, non, mais c'est
le problème des
positions par extension. Non, mais c'est à nous.
Bon,
nous parlons de nos citadins.
Vous rappelez que nous avons eu un débat l'automne dernier au Parlement européen sur le problème de la gestion des déchets nucléaires. Bon, et donc, fatalement, à travers ce problème, on évoque les problèmes des combustibles irradiés, du retraitement, enfin de toute la filière. Et au cas où vous ne sortiez pas, sachez quand même que le Parlement européen, dans sa majorité, a reconnu que la meilleure façon de gérer ce problème aujourd'hui, c'était de réduire la quantité des combustibles irradiés, ce qui veut dire en clair qu'il faut essayer de programmer l'arrêt du nucléaire dans nos différents pays européens. Une deuxième chose, le Parlement européen a reconnu que la filière du plutonium devait être abandonnée. C'était un constat de réalité, d'ailleurs, avec le surgénérateur. Et si je vous dis cela, c'est parce que les parlementaires européens, nous sommes 29 sur 518, les parlementaires européens, qui ne sont pas forcément des verts, doivent être quand même à l'écoute des populations. Vous parliez tout à l'heure de démocratie. La démocratie, ce n'est pas seulement parce qu'il est prévu par la loi qu'un gouvernement peut faire un décret, que la démocratie est respectée. La démocratie, c'est quand même avant tout prendre en compte ce que veulent les populations qui vivent dans nos différents pays européens. Alors, c'est aussi cela que nous venions vous dire en protestant contre cette ouverture du chantier Mellox. Il a été rappelé d'ailleurs que Mellox avait commencé, la construction avait commencé avant l'autorisation, ce qui est encore une fois le fait accompli et la négation de l'état de droit.
Non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Bon, il suffit que...
Je ne peux pas accepter qu'on puisse dire que notre pays ne soit pas un pays d'état de droit.
Mais avec le nucléaire, on peut se poser...
Bien, je ne peux pas l'accepter.
Je ne généralise pas.
Écoutez, vous faites des accusations que je trouve légères et graves. Bon, j'ai... Et c'est pas à moi qu'il faut faire ces accusations. Allez voir le gouvernement français, faites-lui en face ces accusations. Dites au gouvernement français qu'il gouverne, c'est tout. Mais pas à moi. Bon, alors, ce que je dois faire pour la démocratie, c'est de vous écouter, ce que je fais.
L'entreprise, quand même, fait pression, soyons clairs.
Je vous dis que nous sommes un pays de droit. Je vous dis que nous n'étions pas un pays de droit. Je vous dis que si.
C'est tout.
C'est une autre question. C'est une autre question.
Je crois qu'on peut interrompre.
Oui, je vous garantis qu'on va répondre à vos questions. Vous êtes des parlementaires.
Et donc,
vous êtes des parlementaires, il n'y a pas de raison. Oui, bien sûr.
Et M. Hergé, si vous souhaitez revenir, on vous accueillera avec plaisir, mais dites-le avant.
Mais je vous le dis franchement. Il est bien clair que sur beaucoup de points, nous ne sommes...
Nous n'avons eu droit qu'à la cantine.
Non, mais monsieur, sur beaucoup de points, sur beaucoup de points, nous avons des chances de ne pas être d'accord, peut-être. Sur d'autres, peut-être, nous serions-nous d'accord. Je dis qu'il serait plus simple. Bon, c'est bien qu'il faut aussi que vous fassiez part de des événements et que vous réagissiez sur l'événement. Mais en dehors des événements, vous pouvez avoir vos questions, on peut se rencontrer et en discuter. Mais j'aimerais que puisse le faire de façon très, très raisonnable entre des gens qui appartiennent effectivement à l'Europe.
Il y a M. Guy Payotin, qui est administrateur général adjoint du CEA.
Ou à Superphénix, ou à Cadarache.
Et M. Jacques Blanc, qui est le directeur de cabinet de l'administrateur général.
D'accord, merci beaucoup.
D'autres types de transport que le transport par voiture ou par camion. C'est notamment le transport par rail, qui est incontestablement, sur le plan énergétique, le transport le plus efficace. Donc il y a là une notion beaucoup plus large lorsqu'on parle d'utilisation rationnelle de l'énergie quand on parle d'économie d'énergie. Donc, je crois qu'on peut dire qu'à long terme, si nous nous sentons pratiquement obligés dans les décennies à venir de nous passer de tout ce qui est non renouvelable, donc la dominante devra être l'utilisation des énergies renouvelables. Ce sera indissociable de toute une structuration de la consommation d'énergie qui sera basée sur le concept d'utilisation rationnelle de l'énergie et enfin sur des structures nettement plus décentralisées qu'actuellement, à la fois dans la demande et dans l'offre. Alors, le problème est un problème de court terme et un problème de transition. Et c'est ça qu'on va aborder cet après-midi. Comment aller vers ce type de politique énergétique? Comment y aller sans rupture brutale au plan social? Comment y aller sans surcoût économique qui serait insupportable dans les pays les plus fragiles? Et je pense notamment aux pays qui sont en difficulté économique, comme les pays de l'Est. Là est le débat. Alors, les difficultés, que ce soit dans nos pays ou dans les pays de l'Est, sont énormes. La structure de consommation actuelle, que ce soit dans les transports, mais aussi dans l'agriculture, entre parenthèses, il faut toujours maintenant 7 calories fossiles pour une calorie alimentaire, dans la structure agricole des pays industrialisés, mais on pourrait parler de l'habitat également, toutes ces structures sont des structures énergivores. Et c'est tout à fait facile à comprendre dans la mesure où la société industrielle s'est construite sur le concept d'énergie à bon marché. L'énergie est relativement peu coûteuse depuis longtemps, et tout le débat que nous avons eu depuis deux jours sur le choix entre l'économie de marché ou l'économie centralisée a un peu étouffé un concept important qui est le concept de coût d'énergie. Il est évident que si le coût d'énergie était deux ou trois ou quatre fois plus élevé que maintenant, ou qu'il n'a été dans les décennies précédentes, toute la structure de l'habitat, des transports, de l'industrie serait différente de ce qu'elle est. Donc, si nous voulons aller vers une société qui consomme beaucoup moins d'énergie, qui en consomme mieux, il faut aussi que nous revoyons toute une série de concepts en matière de structuration. Et donc, je crois que ça, c'est un handicap, parce que nous avons un passif qui porte pratiquement sur un siècle. Et nous ne pouvons pas modifier l'habitat, ni dans une ville comme Paris, ni d'ailleurs dans les banlieues où on constate des gouffres énergétiques impressionnants. On ne peut pas y aller en quelques années. Donc il y a là une modification fondamentale qui prend du temps. Deuxième handicap, c'est l'existence des monopoles. Didier a mis très bien le doigt tout à l'heure sur le rôle négatif que joue le monopole public qu'est l'EDF. Mais je voudrais aussi enchaîner sur ce qu'a dit notre ami polonais pour dire qu'il n'y a pas qu'en France qu'il y a des monopoles. Il y a des monopoles en Angleterre, il y a des monopoles en Belgique, il y a des monopoles un peu partout. Et l'interaction entre le privé et le public est parfois beaucoup plus vicieuse qu'on pourrait le croire. Je suis ressortissant d'un petit pays par la taille, mais qui par le monopole est parfois très grand. Et je pourrais vous dire que la fusion des compagnies de distribution et de production d'électricité en Belgique va aboutir, elle l'a déjà abouti en fait structurellement, à une nouvelle société qui, au plan européen, va se trouver pratiquement en deuxième place sur le plan de la puissance financière et sur la puissance de production et de distribution d'électricité. Donc il y a là une course à la centralisation et à au renforcement des capitaux qui est tout à fait pernicieuse et tout à fait dangereuse, et qui ne va pas aller dans le sens d'une meilleure utilisation de l'énergie. Troisième élément qui entraîne des difficultés, c'est l'inertie technologique et le centralisme. Nous avons eu récemment une réunion en Irlande. L'Irlande est un pays qui n'a pas de centrale nucléaire, qui n'a pas de parc de production nucléaire, et qui vit un phénomène à peu près identique à celui que nous vivons en France ou en Belgique, c'est-à-dire un suréquipement en production d'électricité parce qu'il y a quelques années, l'Irlande a choisi d'installer une centrale thermique au charbon dont la puissance est à peu près 25% du parc total de production. Et donc, dans la mesure où ils ont choisi d'installer cette centrale dans une optique de croissance de la demande qui ne s'est pas vérifiée dans la suite, l'Irlande se trouve maintenant suréquipée. Et donc, face à ce suréquipement, la solution, c'est celle qu'on connaît toujours, on stimule la demande. Et stimuler la demande, manifestement, ça ne va pas dans le sens de l'économie d'énergie. Donc il y a là une interaction permanente entre la demande et l'offre. On installe une offre qui doit être planifiée longtemps à l'avance, de peur d'aboutir à un sous-équipement, on a tendance à suréquiper. Comme on est suréquipé, on stimule la demande, et ainsi de suite. La demande stimule elle-même l'offre, et on est parti dans cette course à la croissance, qui n'est pas propre à la politique énergétique, qui est propre à toute la société industrielle, mais qui conduit exactement à l'inverse de ce que nous voulons. Donc je crois qu'il faut que nous soyons conscients de ce mécanisme, d'un mécanisme extrêmement dangereux, et qu'il ne faudrait pas croire uniquement lié au nucléaire. C'est vrai qu'il est lié en grande partie au nucléaire, mais il n'est pas typique du nucléaire. Alors, quels sont les mécanismes politiques au niveau européen par lesquels nous pourrions agir pour stimuler une politique de développement des renouvelables, d'utilisation rationnelle de l'énergie et de décentralisation? Bien, je crois qu'il y a quatre types de mesures. Il y a tout ce qui touche aux normes. Roger Belbriot a évoqué ce matin le problème des normes de radioactivité. J'espère que tout le monde a bien perçu l'enjeu qu'il y avait derrière ce problème des normes. Il est évident que si on modifie les normes de radioactivité, les normes de base, mais aussi les normes dérivées, il y a tout un édifice qui s'écroule dans le nucléaire. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que le traité Euratom n'est pas appliqué pour le moment, et que la Commission européenne traîne les pieds pour modifier les normes qu'elle devrait modifier si elle respectait les recommandations internationales. Parce que s'il fallait diviser par 5 les normes de base, je crois qu'il y a pas mal de secteurs, notamment dans le retraitement, qui seraient vraiment en difficulté. Et donc là, nous nous trouvons confrontés à un problème politique important sur lequel le groupe Vert